le journal de George Fox 1652-1655, un re-incarcération, et jusqu'à Londres page 3-3 alors que les amis restaient dans les régions du Nord, un prêtre de Wrexham, au pays de Galles, nommé Morgan Floyd entendit des rapports à notre sujet et envoya deux personnes de sa congrégation vers le Nord pour se renseigner sur nous, nous éprouver, et lui rapporter leur expérience. Quand ces examinateurs vinrent parmi nous, la puissance du Seigneur s'empara d'eux, et tous deux furent convaincus de la vérité. Ils restèrent donc quelque temps avec nous, puis retournèrent au pays de Galles, où par la suite l'un d'eux se détourna de sa conviction, mais l'autre, nommé John Upjohn, demeura dans la vérité et reçut une part du ministère, dans lequel il persévéra fidèlement. Alors les prêtres furent grandement troublés à Newcastle, à Candale, et dans la plupart des comtés du Nord. Un homme nommé Gilpin nous avait parfois rencontrés à Candale. Peu après, il sortit de la vérité pour se perdre dans de vaines imaginations, et les prêtres se servirent de lui contre nous autant qu'ils le purent, mais la puissance du Seigneur les confondit tous. Et le Seigneur Dieu retrancha deux de ses magistrats persécuteurs à Carlisle, et, quelque temps après, le troisième magistrat fut destitué de sa charge et quitta la ville. À cette époque, le serment d'engagement envers Oliver Cromwell fut proposé aux soldats, beaucoup d'entre eux furent licenciés parce qu'ils ne pouvaient pas jurer en obéissance au Christ. L'un de ces soldats était John Stubb, qui fut convaincu lorsque j'étais dans la prison de Carlisle. Il devint un bon soldat dans la guerre de l'agneau, et un fidèle ministre de Christ Jésus, voyageant beaucoup au service du Seigneur en Hollande, en Irlande, en Écosse, en Italie, en Égypte et en Amérique. Et la puissance du Seigneur le préserva des mains des papistes, bien qu'il fût souvent en grand danger de l'Inquisition. Mais certains soldats avaient été convaincus dans leur jugement sans être entrés dans l'obéissance à la vérité, et ils prêtèrent le serment d'Oliver Cromwell. Ensuite, en allant en Écosse, ils s'approchèrent d'une garnison. La garnison tira sur eux, pensant qu'ils étaient des ennemis, et plusieurs furent tués, ce qui fut un triste événement. Quand les églises furent établies dans le Nord, et que les amis étaient assis sous l'enseignement de Christ, et que la gloire du Seigneur brillait sur eux, je passai de Swarthmore à Lancaster vers le commencement de l'année 1654, visitant les amis jusqu'à ce que j'arrivasse à Cinderhill Green. Une réunion avait été fixée 3 semaines auparavant, et la réunion laissa le Nord frais et verdoyant sous Christ leur enseignant. Nous passâmes par Halifax, ville grossière de professants, et arrivâmes chez Thomas Taylor, qui avait été capitaine, où nous rencontrâmes quelques disputeurs doctrinaux, mais la puissance du Seigneur dominait tout, car je voyageais dans le mouvement de la puissance de Dieu. Quand j'arrivai à Cinderhill Green, il y eut une immense assemblée. On estima qu'il y avait plusieurs milliers de personnes, dont beaucoup de rangs, tels que des capitaines et d'autres officiers. Il y eut une conviction générale, la puissance et la vérité du Seigneur furent établies au-dessus de tout, et il n'y eut aucune opposition. À cette époque, le Seigneur agit sur les esprits de beaucoup de ceux qu'il avait suscités. Il les envoya travailler dans sa vigne, à voyager vers le sud, et ils se répandirent au service de l'Évangile vers les parties orientales, méridionales et occidentales de la nation. Francis Rowgill et Edward Burroughs à Londres, John Cam et John Odlan à Bristol, Richard Robeson et George Whitehead vers Norwich, Thomas Holm au pays de Galles, et beaucoup d'autres par divers chemins, car le Seigneur avait suscité plus de 60 ministres, et il les envoya au loin hors du Nord. Le sentiment de leur service pesait très lourdement sur moi, et je fus poussé à publier l'écrit suivant, aux amis dans le ministère. Tous les amis partout, connaissez la semence de Dieu, qui écrase la semence du serpent et se tient au-dessus de la semence du serpent, cette semence ne pêche pas, mais écrase la tête du serpent qui, lui, pêche et tente au péché. Cette semence est celle à laquelle vont la promesse et la bénédiction de Dieu, et cette semence est une dans le mâle et dans la femelle. Vous êtes parvenu au commencement, où la semence de Dieu est la tête et a écrasé la tête de l'autre, et l'homme nouveau est connu, et celui qui est serviteur de l'homme nouveau est connu, et la promesse de Dieu à la semence est accomplie et s'accomplit, et les Écritures en viennent à être ouvertes et reconnues, et la chair du Christ est connue comme celui qui a pris sur lui la semence d'Abraham selon la chair, le sacerdoce éternel est connu, et dans l'Alliance éternelle Christ prend sur lui la semence d'Abraham, et il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Ici est connue l'offrande éternelle, une fois pour toutes, qui renverse la nature qui offrait, de laquelle était issu le sacerdoce qui ne pouvait subsister à cause de la mort. Et ici est connue l'autre offrande, l'offrande éternelle, qui rend parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Cette offrande a effacé l'acte écrit des ordonnances, triomphe d'elles et s'élève au-dessus de toutes les principautés et puissances. Celui qui a l'esprit de Jésus voit cela, et ici l'amour de Dieu est reçu, qui ne se réjouit pas de l'iniquité, mais conduit à s'en repentir. Voici la parole du Seigneur Dieu pour vous tous, amis, partout dispersés, reconnaissez la puissance de Dieu les uns dans les autres, et réjouissez-vous-en, car alors vous vous réjouissez dans la croix du Christ, qui n'est pas du monde, cette croix est la puissance de Dieu pour tous ceux qui sont sauvés. Vous qui connaissez et sentez la puissance, sentez la croix du Christ, vous sentez l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Celui qui croit en la lumière, croit en l'alliance éternelle, en l'unique offrande, il parvient à la vie des prophètes et de Moïse, parvient à voir Christ l'espérance, le mystère, et cette espérance ne périt pas. La lumière vous fait voir l'espérance qui périt, qui n'est pas un mystère, et dans cette espérance périssable, l'attente s'évanouit. Là où cette espérance infaillible est attestée, le Seigneur en vient à être sanctifié dans le cœur, et vous revenez au commencement, à Christ l'espérance qui ne périt pas, mais l'autre espérance et l'autre attente périssent. Ainsi vous tous, connaissez la disparition de l'autre espérance et la défaillance de l'attente au-dedans, et connaissez l'espérance qui ne périt pas, afin d'être prêts à rendre raison de cette espérance, avec douceur et crainte, à tout homme qui vous le demande. Christ l'espérance, le mystère, qui ne périt pas, la fin de toute chose périssable, la fin de toute chose changeante, la fin de l'alliance déclinant, la fin de ce qui vieillit et se détruit, la fin de la première alliance de Moïse et des prophètes, la justice de Dieu, Christ Jésus le Fils, son trône vous le connaîtrez, vous serez héritier avec lui, lui qui fait de ses enfants des rois et des prêtres pour lui, et les amène à connaître son trône et sa puissance. Il n'y a pas de justification hors de la lumière, hors de Christ, la justification est dans la lumière, en Christ. Voici celui qui fait la volonté de Dieu, voici l'entrée dans le royaume. Celui qui croit en la lumière devient un enfant de lumière, et ici est reçu la sagesse qui est justifiée par ses enfants. Ici, en croyant en la lumière, vous ne demeurez pas dans les ténèbres, mais vous aurez la lumière de la vie. Et chacun viendra à témoigner de la lumière qui brille dans vos cœurs, qui vous donnera la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu, dans la face de Jésus-Christ. Avec cette lumière, vous le verrez régner, lui qui est le prince de vie et de paix, cette lumière se détourne de celui qui est hors de la vérité et n'y a pas demeuré, là où la vraie paix n'est pas. Amis, ne voitez pas, car celui qui croit en la lumière ne se presse pas. Ici la grâce est reçue, par laquelle vous venez à être sauvés, l'élection est connue, qui obtient la promesse, la volonté est vue, qui veut, l'esprit est connu, qui court sans obtenir mais s'arrête et s'émousse. Quand la lumière voit, juge et arrête la hâte, la patience se forme, qui obtient la couronne, et l'immortalité est mise en lumière. Ainsi tous ceux qui agissent contrairement à la lumière et n'y croient pas, manquent d'accéder à la justification. Et vous tous, amis, si vous vous éloignez de la lumière et du désir de voir la promesse de Dieu s'accomplir pour la semence en vous, afin de connaître Christ régnant en vous, vous vous attirez des vêtements changeants, et vous en venez à porter les vêtements changeants et la chair étrangère, ce qui mène à l'adultère spirituel que la loi saisit. Cela exclut du royaume, et hors du royaume se produisent des œuvres qui sont pour le feu, par lesquelles vous pouvez subir une perte. Aimez donc la lumière qui condamne votre apathie, et recevez du Seigneur la puissance par laquelle vous dominez l'apathie et la condamnez. Ici vous sentez et voyez ce qui vous donne la victoire sur le monde, et de voir au-delà du temps, avant que le temps fût. Encore, amis, connaissez Abraham qui obéit à la voix de Sarah, celui qui engendra un fils et chassa la servante et son fils. Ne vous écartez pas de ce principe, sinon vous abriterez la sauvagerie. Connaissez la source du fils sauvage et sa mère, qui n'est pas Sarah, car la promesse est à la semence, non à plusieurs, mais à une seule, cette semence est Christ, et cette semence, vous venez maintenant à la voir et à en témoigner, se tenant au-dessus de tout, oui, sur la tête du serpent. Et ainsi tous, comme je l'ai dit auparavant, ceux qui viennent à sentir et à témoigner cela, viennent au commencement. Et au commencement vienne toute la semence de Dieu, l'Église, afin que tous vous veniez à connaître le commencement, où il n'y a ni tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ce qui est acquis par le sang de Jésus et présenté au Père, hors de tout ce qui souille, ce qui est la colonne et l'appui de la vérité. Nul n'y parvient sinon ceux qui viennent à la lumière du Christ, qui a acheté cette Église. Ceux qui s'éloignent de la lumière sont exclus et condamnés, bien qu'ils professent toutes les Écritures qui en ont été déclarées. Marchez donc dans la lumière, afin d'avoir communion avec le Fils et avec le Père, et venez tous à témoigner de son image, de sa puissance et de sa loi, qui est sa lumière, qui a converti vos âmes et les a amenés à se soumettre à la puissance supérieure, au-dessus de tout ce qui est hors de la vérité, afin de connaître ici la miséricorde et la vérité, et la foi qui agit par l'amour, dont Christ est l'auteur, lui qui vous éclaire chacun, cette foi donne la victoire. Ce qui donne la victoire est parfait, et ce que les ministres de Dieu ont reçu de Dieu est ce qui est parfait, et ce qu'ils doivent ministrer est pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce qu'ils parviennent tous à l'unité de la foi, à l'homme parfait. Telle est la parole du Seigneur pour vous tous. Que chacun, dans la mesure de vie, attende, afin que par elle tous vos esprits soient conduits vers le Père de vie, le Père des esprits, pour recevoir de lui puissance et sagesse, afin que par elle vous soyez ordonnés à sa gloire, à qui soit toute gloire à jamais, que tous demeurent dans la lumière et la vie, qui abaisse ce qui est contraire à la lumière et à la vie. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit donc avec vous tous. et gardez vos réunions partout, étant guidés par ce qui est de Dieu, par là vous pourrez voir le Seigneur Dieu parmi vous, lui qui éclaire tout homme venant au monde, afin que tous les hommes du monde puissent croire. Celui qui ne croit pas, la lumière le condamne, celui qui croit sort de la condamnation. Cette lumière, qui éclaire tout homme venant au monde, ce qui la haïsse y achoppe la lumière des hommes. Tous les amis qui parlent en public, veillez à ce que ce soit dans la vie de Dieu, car cela engendre pour Dieu, les fruits de cela ne se flétriront jamais. Parlez depuis la vie sème pour l'esprit qui est en prison, et de l'esprit on moissonne la vie, et parlez hors de la lumière sème pour la chair, et de la chair on moissonne la corruption. Vous pouvez voir cela se produire dans le monde entier chez ceux qui parlent hors de la vie, vous pouvez voir ce qu'ils peuvent moissonner dans le champ, qui est le monde. Attendez donc dans l'esprit du Seigneur, qui abat et retranche tout cela, la racine et les branches. Attendez ainsi dans la lumière pour recevoir la puissance, et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous y conserve, par quoi vous pourrez venir à sentir la lumière, qui embrasse le temps et le monde, et les pénètre, croire en la lumière vous donne la victoire sur le monde. Ici est reçue la puissance du Seigneur, qui soumet tout ce qui est contraire et dépouille les vêtements qui tachent et souillent. Par cette lumière vous en venez à atteindre la lumière en tout homme, par laquelle Christ éclaire tout homme venant au monde, et ici les choses du Christ en viennent à être connues, et la voix du Christ entendue. Demeurez donc dans la lumière, l'alliance de paix, et marchez dans l'alliance de vie. Il y a ce qui se réjouit au-dessus du témoignage de Dieu, et il y a ce qui se réjouit dans le Seigneur, ce dernier est au-dessus de ce qui s'en est réjoui avec légèreté, prenez en note, vous qui êtes dans la lumière. Le Seigneur embellit ce dont la confiance est en sa force, et le Seigneur voit ceux qui se confient en sa force et ceux qui sont dans sa lumière. Mais ceux qui ne sont pas de la lumière et dont les yeux suivent leurs abominations et leurs idoles, leurs yeux doivent être aveuglés, leurs belles idoles et leurs abominations doivent être détruites, et par la lumière condamnées, eux qui les ont fabriquées hors de la vie, dans leur propre force, cela est vu avec la lumière et renversé par la puissance de Dieu. Si vous pouvez changer mon alliance, dit le Seigneur, celle qui maintient le jour en sa saison et la nuit en sa saison, notez mon alliance la lumière, si vous pouvez changer cela, alors vous pourrez changer l'alliance de Dieu avec sa semence. Ainsi, vous tous, amis, qui êtes tournés vers la lumière qui vient de celui par qui le monde a été fait, qui était avant qu'il fût fait, Christ Jésus, le Sauveur de vos âmes, demeurez dans la lumière, et vous verrez votre salut être des murs et des remparts contre ce que la lumière découvre comme lui étant contraire. En attendant dans la lumière, vous recevrez la puissance de Dieu, qui est l'évangile de paix, afin d'en être chaussés. Et reconnaissez les uns dans les autres ce qui relève la semence de Dieu, l'établit au-dessus du monde et de la terre, et crucifie les affections et les convoitises, alors la vérité vient à régner, elle qui est le lien qui saint. George Fox à cette époque, Rhys Jones astérisque de Nottingham qui avait été baptiste, puis Quaker, et s'était maintenant tourné vers les rentés, et sa compagnie commencèrent à prophétiser contre moi, proclamant que j'étais alors au sommet et que j'allais bientôt tomber. Il envoya un paquet de papiers moqueurs de Nottingham à Mansfield, Clauson et aux villes voisines, jugeant les amis pour avoir déclaré la vérité sur les places publiques et dans les églises, papiers auxquels je répondis. Mais leurs prophéties retombèrent sur eux-mêmes, car peu après ils se disloquèrent, et beaucoup de ses disciples devinrent amis et le demeurèrent. Et par la puissance bénie et la vérité du Seigneur, les amis ont augmenté et augmentent dans l'accroissement de Dieu, et par cette même puissance j'ai été et je suis préservé, et maintenu dans la semence éternelle qui ne tomba jamais et ne change pas. Mais Rhys Jones prêta les serments qu'on lui imposa, et désobéit ainsi au commandement du Christ. Beaucoup de tels faux prophètes se sont élevés contre moi, mais le Seigneur les a frappés, et frappera tous ceux qui s'élèvent contre la semence bénie, dans laquelle je suis. Ma confiance est dans le Seigneur, car quiconque s'opposait à moi, j'en voyais la fin, et comment le Seigneur les confondrait avant qu'il ne m'envoie. Astérisque Rhys Jones mena la première de plusieurs scissions parmi les Quakers, cependant, ce fut une scission mineure, ne touchant qu'un seul endroit. Jones et ses partisans commirent l'erreur de croire qu'ils pouvaient être intérieurement fidèles à Dieu, tandis que leur corps pouvait se conformer au monde, ainsi ils rejetèrent la nécessité du renoncement à soi et de la croix intérieure. Rhys Jones avait été un Quaker fidèle, mais ses ambitions d'enseigner et de prêcher, jointes à son refus de la croix, mirent en échec son progrès. Il entraîna avec lui, dans la séparation, beaucoup de Quakers immatures, qui se réunissaient au château de Nottingham, se qualifiant de Quakers orgueilleux ou de « compagnie du château ». Leur passion comprenait les sports, beaucoup devenant plus tard des lutteurs et des joueurs de football éminents en Angleterre. Fox demanda plus tard à Rhys Jones de convoquer une réunion de ses partisans afin que Fox pût leur parler. Lors de cette réunion, Fox discrédita les affirmations de Jones par les Écritures, convainquant la plupart de revenir à la véritable foi Quaker. ceux qui restèrent se réunissaient le premier jour de la semaine pour jouer au jeu de palais Shovelbod. J'étais alors à Cinderhill Green, où je tins une grande réunion de jour, et une autre le soir, dans la maison de Thomas Stacy, car les gens venaient de loin et ne pouvaient repartir rapidement. Le grand shérif du comté dit au capitaine Bradford qu'il avait l'intention de venir à la réunion avec une demi-douzaine de ses cavaliers, mais le seigneur l'en empêcha. Quand j'eus établi quelques réunions dans la région, je voyageai de long en large dans le Yorkshire jusqu'à Holderness et jusqu'au Land's End de ce côté-là, visitant les amis et les églises du Christ, qui étaient solidement établies sous son enseignement. Enfin j'atteignis la maison du capitaine Bradford, où beaucoup de rentés étaient venus de York pour discuter, mais ils furent confondus. De cette région vint une femme appelée Lady Montag, qui fut alors convaincue, et vécut et mourut dans la vérité. Puis j'allai chez Thomas Taylor à moins de 3 000 de Halifax, où se tenait une réunion d'environ 200 personnes, parmi lesquelles se trouvaient beaucoup de gens grossiers, et plusieurs bouchers, qui, avant de venir, s'étaient liés par serment à me tuer, m'a-t-on dit. L'un de ces bouchers avait été accusé d'avoir tué un homme et une femme. Ils vinrent d'une manière très grossière et causèrent un grand trouble dans la réunion. Comme elle était bondée, Thomas Taylor se leva et leur dit « Si vous voulez être civilisés, vous pouvez rester, sinon, j'exige que vous quittiez ma propriété. » Mais ils empirèrent et dirent qu'ils en feraient un terrain commun, et ils hurlaient et faisaient du bruit comme s'ils avaient été à un combat d'ours. Ils bousculaient les amis, et comme ceux-ci étaient paisibles, la puissance du Seigneur vint sur les perturbateurs. Plusieurs fois, ils me repoussèrent hors de l'endroit où je me tenais, tant les gens se pressaient ensemble contre moi. Mais chaque fois que j'étais contraint de m'asseoir, j'étais encore poussé par le Seigneur à me lever de nouveau. Enfin, je fus poussé par le Seigneur à leur dire, « S'ils veulent discuter des choses de Dieu, qu'ils viennent à moi un par un, et s'ils ont quelque objection, je leur répondrai à tous l'un après l'autre, mais ils demeurèrent tous silencieux et n'eurent rien à dire. Alors la puissance du Seigneur vint si fort sur eux tous, répondant aux témoins divins en eux, qu'ils furent liés par la puissance de Dieu. Nous eûmes une réunion glorieuse et puissante, et les esprits des gens furent tournés, par le Saint-Esprit en eux, vers Dieu et vers Christ leur enseignant. La puissante parole de vie fut largement déclarée ce jour-là, et dans la vie et la puissance de Dieu nous levâmes la réunion, et cette compagnie grossière s'en alla vers Halifax. Les gens leur demandèrent, « Pourquoi ne m'avez-vous pas tué, selon le serment que vous aviez prêté ?» Et ils répondirent méchamment, « Il nous a tellement ensorcelés que nous ne pouvions pas le faire. » Ainsi le diable fut enchaîné à ce moment-là. Les amis me dirent qu'à d'autres occasions ils venaient et se montraient très grossiers et indisciplinés, allant parfois jusqu'à briser leurs bancs et à faire chez eux un terrible ravage. Mais la puissance du Seigneur les avait maintenant liés. Peu après, ce boucher, qui avait auparavant été accusé d'avoir tué un homme et une femme, et qui était l'un de ceux qui avaient juré de me tuer, tua un autre homme et fut alors envoyé à la prison de York. Un autre de ces bouchers grossiers, qui avait aussi juré de me tuer, ayant l'habitude de tirer la langue par dérision envers les amis quand ils passaient près de lui, eut la langue si enflée hors de la bouche qu'il ne put jamais la rentrer, et mourut ainsi. Plusieurs jugements étranges et soudains frappèrent beaucoup de ces conjurés contre moi, qu'il serait trop long d'énumérer ici. La vengeance de Dieu du ciel tomba sur les assoiffés de sang, qui cherchaient le sang, car tous ces esprits, je les ai remis devant le Seigneur et les ai laissés à lui, pour qu'il en dispose, lui qui est plus fort que tous, en la puissance duquel je fus préservé et conduit à accomplir son œuvre. Le Seigneur a suscité en ce lieu un beau peuple, qu'il a attiré à Christ et rassemblé en son nom, ils sentent Christ au milieu d'eux et s'assoient sous son enseignement. Après cela, je traversai les contrées jusqu'à Balby, d'où plusieurs amis m'accompagnèrent dans le Lincolnshire, certains allèrent dans les églises, d'autres à des réunions privées. Vint à la réunion où je me trouvais le shérif de Lincoln, et plusieurs avec lui, qui firent pendant un temps de grandes querelles et disputes. Mais à la fin la puissance du Seigneur le frappa tellement qu'il fut convaincu de la vérité et reçut la parole de vie, comme le firent aussi plusieurs autres qui s'étaient opposés à nous, ils demeurèrent parmi les amis jusqu'à leur mort. Il y eut de grandes réunions et une conviction étendue dans ces régions. Beaucoup furent tournés vers le Seigneur Jésus et vinrent s'asseoir sous son enseignement, quittant leurs prêtres et leurs voies superstitieuses, et le jour du Seigneur prospéra sur tout. Parmi ceux qui vinrent à nos réunions dans ce pays-là, il y en eut un nommé ce Richard Ray, qui fut convaincu avec son frère et l'épouse de son frère. Son frère et sa belle-sœur vécurent dans la vérité jusqu'à la mort, quoiqu'ensuite ce Ray se soit écarté de la foi. Après avoir visité ces contrées, j'entrai dans le Derbyshire. Le shérif de Lincoln, récemment convaincu, m'accompagnait. Dans une réunion, nous eûmes quelques oppositions, mais la puissance glorieuse du Seigneur donna domination sur tout. La nuit, une troupe de baillis et de serviteurs vint et me fit sortir. Je sortis vers eux avec quelques amis. Ils étaient extrêmement grossiers et violents. De toute évidence, ils avaient comploté de m'emmener de force dans l'obscurité du soir afin de me blesser ou de me tuer, mais la puissance du Seigneur les enchaîna de telle sorte qu'ils ne purent mener à bien leur dessein, et finalement ils s'en allèrent. Le lendemain, Thomas Aldam, ayant appris que ses serviteurs appartenaient à un chevalier des environs, se rendit chez lui et lui parla de la mauvaise conduite de ces gens. Le chevalier les réprimanda et leur interdit toute nouvelle mauvaise conduite envers nous. Après cela, nous vînmes à Skegby, dans le Nottinghamshire, où nous eûmes une grande réunion de gens très divers, et la puissance du Seigneur passa sur eux, et tout fut paisible. Les gens furent tournés vers l'Esprit de Dieu, par lequel beaucoup vinrent à recevoir sa puissance et à s'asseoir sous l'enseignement de Christ, leur Sauveur. Le Seigneur a maintenant un grand nombre de personnes dans ces régions. Je passai vers le parc de Kitsley, où beaucoup de rentés étaient arrivés, mais la puissance du Seigneur les réprima. De là j'allai dans la région du Pic, chez Thomas Hammersley, où vinrent les rentés de ce pays-là et beaucoup de grands professants. Les rentés s'opposèrent à moi et commencèrent à jurer. Quand je les réprimandai pour leurs jurons, ils invoquèrent l'Écriture, alléguant qu'Abraham, Jacob et Joseph avaient juré, et que les prêtres Moïse, les prophètes et les anges avaient juré. Je confessai que tout ceci l'avait fait, comme le rapporte l'Écriture, mais dis-je, Christ qui a dit, avant qu'Abraham fût, je suis à commander, ne jurez point du tout. Christ met fin aux prophètes, à l'ancien sacerdoce, à la dispensation de Moïse, et règne sur la maison de Jacob et de Joseph, et il dit, ne jurez point du tout. Et Dieu, lorsqu'il introduisit le premier-né dans le monde, dit, que tous les anges de Dieu l'adorent, c'est-à-dire Christ Jésus qui a dit, ne jurez point du tout. Quant au prétexte que les hommes avancent pour jurer, afin de mettre fin à leur crêle, Christ qui dit, ne jurez point du tout, détruit le diable et ses œuvres, lui qui est l'auteur des crêles, car c'en est une de ses œuvres. Et Dieu a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Ainsi c'est le Fils qu'il faut écouter, lui qui interdit de jurer, et l'apôtre Jacques, qui a bien écouté le Fils de Dieu, l'a suivi et prêché, interdit tous les serments. Jacques 5, 12. Ainsi la puissance du Seigneur passa sur eux, et son Fils et sa doctrine furent établis au-dessus d'eux. La parole de vie fut pleinement et richement prêchée, et beaucoup furent convaincus ce jour-là. Ce Thomas Hammersley, ayant été convoqué pour servir comme juré, fut admis à servir sans prêter serment, et, étant président du jury, lorsqu'il rendit le verdict, le juge déclara « J'ai été juge tant d'années, mais je n'ai jamais entendu de verdict plus droit que celui que ce Quaker vient de rendre. » On pourrait écrire beaucoup de choses de cette nature, que le temps manquerait à rapporter. Mais la puissance bénie et la vérité du Seigneur furent exaltées au-dessus de tout, lui qui est digne de toute louange et de toute gloire à jamais. En voyageant à travers le Derbyshire, je visitai les amis jusqu'à ce que j'arrivasse à Swannington, dans le Leicestershire. Il y eut une réunion générale dans cette ville, à laquelle vinrent beaucoup de rentés, de baptistes et d'autres professants, car il y avait eu de grands débats entre les rentés et les prêtres dans cette ville. Plusieurs amis vinrent à cette réunion de divers endroits, dont John Odlan, Francis Haugill, Edward Pugh de Bristol et Edward Burrough de Londres, et plusieurs furent convaincus dans ces régions. Les rentés causèrent un trouble et se montrèrent très grossiers, mais finalement la puissance du Seigneur vint sur eux et ils furent confondus. Le lendemain, Jacob Bottomley, un grand renté, vint de Leicester, mais la puissance du Seigneur l'arrêta et passa sur eux tous. Un prêtre vint aussi, mais il fut également confondu par la puissante puissance du Seigneur. Vers cette époque, les prêtres, les baptistes, les rentés et d'autres professants étaient très grossiers et excitaient des gens grossiers contre nous. Nous envoyâmes un message aux rentés, leur demandant de venir à la réunion afin que leur Dieu puisse être mis à l'épreuve. Beaucoup vinrent et furent très grossiers en chantant, sifflant et dansant, mais la puissance du Seigneur les confondit tellement que beaucoup furent convaincus. Après cela j'allai à Twycross, où vinrent quelques-uns des mêmes rentés qui avaient chanté et dansé devant moi, mais je fus poussé, dans la crainte du Seigneur, à les reprendre, et la puissance du Seigneur vint sur eux, de sorte que certains furent convaincus et reçurent l'Esprit de Dieu. Ils devinrent un beau peuple, vivant et marchant sobrement dans la vérité du Christ. J'allai chez Anthony Brickley, dans le Warwickshire, où il y eut une grande réunion. Plusieurs baptistes et d'autres vinrent et disputèrent, mais la puissance du Seigneur vint sur eux. Puis je me rendis à Dreton, dans le Leicestershire, pour rendre visite à mes parents. Dès que je fus arrivé, le prêtre Nathaniel Stephen, s'étant joint à un autre prêtre et ayant fait donner avis dans la contrée, m'envoya dire de venir vers eux, car il ne pouvait rien faire tant que je ne serais pas venu. Ayant été 3 ans éloigné de mes parents, je ne savais rien de leur dessein. Mais enfin j'entrai dans la cour de la maison au clocher, où se trouvaient les deux prêtres. Ils avaient rassemblé beaucoup de monde. Ils voulaient que j'entre dans la maison au clocher. Je leur demandai pourquoi je devrais y entrer. Ils dirent que M. Stephen ne pouvait supporter le froid. Je leur dis qu'il pouvait le supporter aussi bien que moi. Richard Farnsworth était avec moi, et finalement nous entrâmes dans une grande salle où nous eûmes une grande dispute avec ces prêtres au sujet de leurs pratiques et de la façon dont ils étaient contraires au Christ et à ses apôtres. Les prêtres voulaient savoir où les dîmes étaient interdites ou abolies. Je le leur montrai dans le 7e chapitre de l'Épître aux Hébreux, non seulement les dîmes, mais aussi le sacerdoce qui percevait les dîmes a pris fin, et la loi a été terminée et abrogée par laquelle le sacerdoce était établi, et les dîmes étaient commandées d'être payées. Alors ils excitèrent le peuple à quelque légèreté et grossièreté. J'avais connu Stephen depuis l'enfance, c'est pourquoi je mis au jour son état et la manière de sa prédication, et comment, comme le reste des prêtres, il appliquait les promesses à la première naissance qui doit mourir. Mais je montrai que les promesses étaient à la semence, et non à plusieurs semences, mais à l'unique semence, le Christ, qui était un an mâle et femelle, car tous devaient être nés de nouveau, avant de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Alors il dit que je ne devais pas juger ainsi. Je lui dis, celui qui était spirituel jugeait de toutes choses. Alors il confessa que c'était un passage complet de l'Écriture, « Mais, voisin, dit-il, voici l'affaire, George Fox est venu à la lumière du soleil, et maintenant il pense pouvoir éteindre ma lumière d'étoile. » Je lui dis, « Je ne voudrais éteindre la moindre mesure de Dieu en qui que ce soit, et encore moins éteindre sa lumière d'étoile, si c'était une vraie lumière de l'étoile du matin. » Mais je lui dis, « S'il a quelque chose de Christ, il doit le dire librement, et ne pas prendre des dîmes au peuple pour prêcher, car Christ a commandé à ses ministres de donner gratuitement, comme ils avaient reçu gratuitement. Je l'exhortai donc à ne plus prêcher pour des dîmes ni pour aucune rétribution, mais il dit qu'il ne céderait pas là-dessus. Après un moment, le peuple commença à devenir vain et grossier, et nous cessâmes alors notre débat. Pourtant, ce jour-là, quelques-uns devinrent affectionnés à la vérité. Avant de nous séparer, je leur dis, « Si le Seigneur le permet, j'ai l'intention d'être de nouveau en ville ce même jour de la semaine, cette nuit à partir d'aujourd'hui. » Entre-temps, j'allai dans la campagne, tins des réunions, et revins une semaine plus tard, le soir. Pendant ce temps, ce prêtre s'était procuré l'aide de sept prêtres, car il avait annoncé, lors d'une conférence un jour de marché à Addiston, qu'aujourd'hui il y aurait une réunion et une dispute avec moi. Je n'en savais rien, je n'avais fait que dire que je serais en ville ce soir-là, sept nuits plus tard. Ces huit prêtres avaient rassemblé plusieurs centaines de personnes, y compris des gens des environs, et ils voulaient que j'entre dans la maison au clocher. Je refusai d'y entrer, et je montai au sommet d'une colline où je leur parlai, à eux et au peuple. Thomas Taylor, James Pownell et plusieurs autres amis étaient avec moi. Les prêtres pensaient avoir piétiné la vérité ce jour-là, mais la vérité l'emporta sur eux. Alors ils devinrent légers et le peuple grossier. Les prêtres ne voulurent pas débattre avec moi, mais ils se crêlaient ici et là un peu avec l'un ou l'autre ami. Enfin, l'un des prêtres amena son fils pour disputer avec moi, mais sa bouche fut bientôt fermée. Quand il ne savait pas répondre, il demandait à son père, et son père était aussi confondu lorsqu'il essayait de répondre pour son fils. Ainsi, après s'être épuisé à force d'essayer, ils partirent furieux à la maison du prêtre Stephen pour boire. Comme ils s'en allaient, je dis, « Je n'ai jamais été dans une réunion où tant de prêtres ensemble ne veuillent pas débattre avec moi. » Sur quoi et quelques-unes de leurs femmes m'entourèrent, m'empoignèrent, et dirent d'un ton mielleux, « Que serais-je devenu s'il n'y avait pas eu les Quakers ?» Puis ils commencèrent à bousculer les amis pour les éloigner de moi et pour m'encercler. Au bout d'un moment, plusieurs gaillards corpulents s'approchèrent, me soulevèrent dans leurs bras et me portèrent sous le porche de la maison au clocher, ayant l'intention de me faire entrer de force dans la maison au clocher, mais la porte était verrouillée et ils tombèrent en tas avec moi sous eux. Dès que je le pus, je m'échappai et retournai sur ma colline, et alors ils me prirent de cet endroit, me portèrent jusqu'au mur de la maison au clocher, et m'assirent sur le socle comme sur un tabouret. Tous les prêtres étaient revenus et se tenaient en dessous avec le peuple. Et les prêtres criaient, « À l'argument, à l'argument !» Je dis, « Je nie toutes leurs voix, car ce sont les voix des mercenaires et des étrangers. » Ils crièrent, « Prouve-le, prouve-le !» Je les renvoyai au 10e chapitre de Jean, où il pouvait voir ce que le Christ disait de tels hommes, il déclara, « Il était le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis, et ses brebis entendent sa voix et le suivent, mais le mercenaire s'enfuirait quand le loup viendrait parce qu'il est mercenaire. J'offris de prouver qu'ils étaient de tels mercenaires. » Alors les prêtres m'arrachèrent de nouveau du socle, et ils montèrent tous sur des socles sous le mur de la maison au clocher. Alors je sentis la puissante puissance de Dieu s'élever sur tous, et je leur dis, « S'ils voulaient écouter et m'entendre tranquillement, je leur montrerai par les Écritures pourquoi je reniais ces huit prêtres ou enseignants qui se tenaient là devant moi, ainsi que tous les enseignants salariés du monde quels qu'ils soient, et je leur donnerai des Écritures pour ce que je dis. » Alors, prêtres et peuple y consentirent. Je leur montrai alors, d'après Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Michée, Malachie et d'autres prophètes, qu'ils étaient dans les traces de ceux contre lesquels Dieu envoya ses vrais prophètes crier, car je dis, vous êtes tels que le prophète Jérémie a dénoncé Chape. 5. Lorsqu'il a dit, les prophètes prophétisent faussement, et les prêtres dominent par leurs moyens, ce qu'il appelait une chose horrible et immonde. Vous êtes de ceux qui se servent de leur langue et disent, ainsi a dit le Seigneur, alors que le Seigneur ne leur a jamais parlé. De ceux qui suivent leur propre esprit et ne voient rien, mais prononcent une divination de leur propre cerveau, et par leurs mensonges et leur légèreté font errer le peuple. Jer 23, 31-32. Vous êtes tels que ceux qui cherchaient leur gain de leur quartier, qui étaient comme des chiens muets et avides, qui n'en avaient jamais assez, contre lesquels le Seigneur envoya son prophète Isaïe crier. Ésaïe 56-11. Vous êtes tels que ceux qui enseignaient pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, qui cousaient des coussins sous les aisselles des gens, afin qu'ils reposent doucement dans leurs péchés. Ésaïe 13. Vous êtes tels que ceux qui enseignaient pour la toison et la laine, et faisaient du peuple leur proie. Ésaïe 34. Mais le Seigneur rassemble ses brebis hors de vos bouches et de vos montagnes stériles, et il les amène à Christ, l'unique berger, qu'il a établi sur ses troupeaux, comme il déclara alors, par son prophète Ézéchiel, qu'il le ferait. Vous êtes tels que ceux qui devinaient pour de l'argent, et prêchaient à prix d'argent, et si un homme ne mettait pas dans leur bouche, ils préparaient la guerre contre lui, comme se plaignait le prophète Michée, Chape. 3. Ainsi je parcourus les prophètes trop largement pour être ici répétés. Puis, venant au Nouveau Testament, je montrai de là qu'ils étaient semblables aux principaux prêtres, scribes et pharisiens contre lesquels Christ prononça des malheurs. Matthieu 23. Et qu'ils étaient de tels faux apôtres contre lesquels les vrais apôtres crièrent, de ceux qui enseignaient pour un gain honteux, de tels antichrists et séducteurs contre lesquels ils s'élevèrent, qui s'attachaient aux choses terrestres, et ne servaient pas le Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre, car ceux qui servaient Christ donnaient gratuitement et prêchaient gratuitement, comme il le leur avait commandé. Mais ceux qui ne veulent pas prêcher sans salaire, dîmes ou moyens extérieurs, servent leur propre ventre, et non Christ, et par de bonnes paroles tirées des Écritures, et par des paroles feintes de leur cru, ils faisaient alors commerce du peuple, comme dis-je vous le faites maintenant. Quand j'eus largement cité les Écritures, et leur eus montré en quoi ils ressemblaient aux pharisiens, aimant à être appelés des hommes maîtres, à aller en longue robe, à se tenir debout pour prier dans les synagogues, à avoir les premières places au festin, et autres choses semblables, et quand devant le peuple, je les eus rangés parmi les faux prophètes séducteurs, scribes et pharisiens, et montré sans exception comment leurs types furent jugés et condamnés par les vrais prophètes, Christ et les apôtres. Je les dirigeai vers la lumière de Jésus, qui éclaire tout homme venant au monde, afin que par elle ils puissent voir si ces choses n'étaient pas vraies, comme elles avaient été dites. Quand j'en appelai à ce qui est de Dieu dans leur conscience, la lumière de Christ Jésus en eux, ils ne purent supporter de l'entendre. Ils étaient tous tranquilles jusque-là, mais alors un professeur dit, « Georges, ne finiras-tu jamais de parler ?» Je lui dis que je finirai bientôt. Je continuai donc un peu plus longtemps, et je me dégageai de dans la puissance du Seigneur. Quand j'eus terminé, tous les prêtres et le peuple restèrent silencieux un moment. Enfin l'un des prêtres dit qu'il voudrait lire les Écritures que j'avais citées. Je leur dis que j'accueillais leur lecture de tout mon cœur. Ils commencèrent à lire le 23e chapitre de Jérémie, et là ils virent les marques des faux prophètes contre lesquels il avait crié. Quand ils eurent lu un verset ou deux, je dis, « Remarquez bien, peuple, mais les prêtres dirent, « Tais-toi, Georges !» Je leur demandai de lire tout le chapitre jusqu'au bout, car tout était contre eux. Alors ils s'arrêtèrent et ne voulurent pas lire plus loin, mais ils me posèrent une question. Je leur dis que je répondrais à leurs questions, pourvu que la chose avec laquelle je les avais chargés soit d'abord accordée, qu'ils étaient de faux prophètes, de faux enseignants, des antichrists et des séducteurs, tels que les vrais prophètes, Christ et les apôtres ont dénoncé. Un professeur dit non à cela, mais je dis « si, car vous laissez la chose et passez à une autre, ce qui semble consentir à la preuve de la première accusation ». Puis je répondis à leur question, qui était celle-ci, « Puisque ces faux prophètes étaient adultérés, est-ce que je jugeais le prêtre Stéphane adultère ?» À quoi je répondis, « Il est adultéré de Dieu dans sa pratique, comme ces faux prophètes et les Juifs. Ils ne voulurent pas s'en tenir à le justifier et rompirent la réunion. » Alors les prêtres se parlèrent à voix basse, et Stéphane vint à moi et demanda que mon père selon la chair, mon frère et moi nous allions à l'écart avec lui afin qu'il puisse me parler en privé pendant que le reste des prêtres tiendrait le peuple éloigné de nous. J'étais très réticent à m'écarter avec lui, mais le peuple cria, « Va Georges, fais-le Georges, va à l'écart avec lui. » Craignant que, si je n'y allais pas, ils ne disent que je désobéissais à mes parents, j'y allais pendant que le reste des prêtres devait tenir le peuple éloigné, mais ils ne le purent, car le peuple voulait entendre et se serra contre nous. Je demandai au prêtre ce qu'il avait à dire. Il dit, « Si je suis hors du chemin, tu prieras pour moi, et si tu es hors du chemin, je prierai pour toi, et je te donnerai une formule de parole par laquelle prier pour moi. » Je répondis, « Il semble que tu ne sais pas si tu es dans le bon chemin ou non, et tu ne sais pas non plus si je suis dans le bon chemin ou non, mais moi je sais que je suis dans le chemin éternel, Christ Jésus, duquel toi tu es hors. Et tu veux me donner une formule de parole pour prier, et pourtant tu refuses le livre de la prière commune comme moi, et moi je refuse ta formule de parole comme je le refuse lui. Si tu veux que je prie pour toi avec une formule de parole, n'est-ce pas nier la doctrine et la pratique de l'apôtre qui priait par l'esprit, comme il donnait les paroles et l'expression ? Alors le peuple se mit à rire, mais je fus poussé à parler davantage à Stéphane. Quand je m'en fus dégagé devant lui et eux, nous nous séparâmes. Avant de partir, je leur avais dit que je serais, Dieu voulant, en ville ce soir-là encore, à cette nuit d'intervalle. Ainsi les prêtres s'en allèrent, et beaucoup de gens furent convaincus ce jour-là, car la puissance du Seigneur vint sur tous. Et là où ils pensaient avoir confondu la vérité ce jour-là, au contraire beaucoup en furent convaincus. Par l'œuvre de ce jour-là, beaucoup de ceux qui avaient été convaincus auparavant furent confirmés dans la vérité, et y vécurent, et ce fut une grande perte pour les prêtres. Oui, mon père, bien qu'auditeur et partisan du prêtre, en fut si bien satisfait qu'il frappa sa canne sur le sol et dit, « Vraiment, je vois que celui qui se tient pour la vérité sera justifié. » Je parcourus la campagne jusqu'à ce soir-là à 7 heures, puis je revins, car nous avions prévu une réunion chez un parent. Le prêtre Stéphane avait eu avis de la réunion à l'avance et s'était adjoint à notre prêtre. Ils avaient avec eux une troupe de cavaliers et envoyèrent me demander de venir à eux. Mais je leur fis dire que notre réunion avait déjà été fixée et qu'ils pouvaient y venir s'ils le voulaient. Les prêtres ne vinrent pas, mais les cavaliers vinrent avec beaucoup de gens désordonnés. Ils avaient projeté que les cavaliers prendraient le nom de chacun, puis leur commanderaient de rentrer chez eux, et que quiconque ne rentrerait pas chez lui serait arrêté. En conséquence, ils commencèrent et prirent plusieurs noms en leur disant de rentrer chez eux, mais lorsqu'ils vinrent pour prendre mon nom, mes parents leur dirent que j'étais déjà à la maison, ainsi ils ne purent pas m'arrêter cette fois-là. Néanmoins, ils prirent mon nom, mais la puissance du Seigneur était sur eux, et ils s'en allèrent, professeurs et cavaliers, contrariés et vexés de n'avoir pas mené à bien leur dessein. Mais plusieurs furent convaincus ce jour-là, et admirèrent l'amour et la puissance de Dieu. C'était ce même prêtre Stéphane qui avait autrefois dit de moi, « Jamais on n'a vu une telle plante élevée en Angleterre, et pourtant, plus tard, il rapporta que j'avais été emporté dans les nuées, et retrouvé ensuite plein d'or et d'argent, et il répandit beaucoup de faux bruits sur moi, mais le Seigneur les balaya tous. La raison pour laquelle je ne voulais pas entrer dans leur maison au clocher, c'est que je devais témoigner contre elle et détourner chacun de tels lieux vers l'Esprit de Dieu, afin qu'ils sachent que leurs corps sont les temples du Saint-Esprit, et les détourner de tous les enseignants mercenaires vers Christ, leur enseignant gratuit, qui est mort pour eux et les a rachetés par son sang. Après cela, j'allai dans la campagne, tins plusieurs réunions et arrivai à Swannington, où les soldats vinrent, mais la réunion fut paisible, la puissance du Seigneur était sur tous, et les soldats n'intervinrent pas. Puis j'allai à Leicester, et de Leicester à Whetstone. Environ 17 cavaliers du régiment du colonel Acker, avec son prévôt, vinrent et m'arrêtèrent avant la réunion, bien que les amis commençaient à s'assembler, car il y avait plusieurs amis venus de nombreux endroits. Je dis au prévôt, « S'il laisse partir tous les amis, je répondrai pour eux tous. » Sur quoi il me prit, et laissa partir tous les amis, seul Alexandre Pocke vint avec moi. La nuit, ils me conduisirent devant le colonel Acker, son major et ses capitaines, une grande compagnie d'entre eux, et nous eûmes beaucoup de discussions au sujet des prêtres et des réunions, car à ce moment-là il courait des rumeurs d'un complot contre Oliver Cromwell. Je raisonnai avec eux pendant quelque temps au sujet de la lumière de Christ, qui éclaire tout homme venant au monde. Le colonel Acker demanda si ce n'était pas cette lumière de Christ qui fit que Judas trahit son maître, et ensuite le conduisit à se pendre. Je lui dis, non, c'était l'esprit des ténèbres qui haïssait Christ et sa lumière. Alors le colonel Acker dit que je pouvais rentrer chez moi si je restais à la maison sans partir pour d'autres réunions. Je lui dis, « Je suis un homme innocent, étranger au complot, et je nie toute telle œuvre. » Alors son fils Needham dit, « Père, cet homme a régné trop longtemps, n'est-ce pas le moment de l'arrêter ?» Je lui demandai, « Pourquoi ? Qu'avais-je fait, ou qui avais-je lésé depuis l'enfance, car j'étais né et avais été élevé dans cette contrée, et qui pouvait m'accuser de quelque mal depuis l'enfance ?» Le colonel Acker me demanda de nouveau si « je voulais rentrer chez moi et rester à la maison. » Je lui dis, « Si je vous le promets, cela montrera que je suis coupable de quelque chose et fera de ma maison une prison, et que si j'allais aux réunions, ils diraient que j'avais enfreint leur ordre. Je leur dis donc que j'irai aux réunions comme le Seigneur me l'ordonnerait, et que je ne pouvais me soumettre à leurs exigences, mais je dis que nous étions un peuple paisible. « Eh bien, alors, dit le colonel Acker, je vous enverrai demain matin, à 6 heures, à mon lord protecteur par le capitaine Drury, l'un de ses gardes du corps. Cette nuit-là, je fus gardé prisonnier à la Manchelsea, et le lendemain matin, à la 6e heure, je fus remis au capitaine Drury. Je lui demandai de me laisser parler au colonel Acker avant de partir, et le colonel Acker me laissa le rencontrer à son chevet. Le colonel Acker m'ordonna de retourner chez moi et de ne plus assister à aucune réunion. Je lui dis, je ne peux m'y soumettre, mais il me faut ma liberté pour servir Dieu et aller aux réunions. Il dit, alors vous devez aller devant le protecteur. Sur quoi je m'agenouillai près de son lit et demandai au Seigneur de lui pardonner, car il était comme Pilate, même s'il se lavait les mains. Et je lui dis que lorsque le jour de sa misère et de son épreuve viendrait sur lui, il se souviendrait de ce que je lui avais dit. Mais il était excité et influencé par Stéphane et les autres prêtres et professeurs, ce qui rendait manifeste leur envie et leur bassesse, car quand ils ne purent me vaincre par des disputes et des arguments, ni résister à l'Esprit du Seigneur qui était en moi, ils firent arrêter un soldat. Par la suite, lorsque le colonel Acker fut emprisonné à Londres, un jour ou deux avant son exécution, on lui rappela ce qu'il avait fait contre l'innocent, il s'en souvint et le confessa à Margaret Fell, disant qu'il savait bien de qui elle parlait, et que c'était la cause de son trouble. Ainsi son fils, qui avait dit à son père que j'avais régné trop longtemps et qu'il était temps de me faire retrancher, put voir comment son père fut retranché ensuite, il fut pendu à Tyburn, à Olive, protecteur par George Fox, 1654 à Olive, protecteur Cromwell était très versé dans les Écritures et paraissait extérieurement très religieux. Amis, ayant vu la sagesse de Dieu, ne laisse pas ceux qui prétendent être tes amis s'approcher de toi, ni tes ennemis non plus, car il y a danger. George Fox, Ésaïe 8. Si quelqu'un court vers toi, vers les morts l'homme charnel pour les vivants censé parler au nom du Dieu vivant, si quelqu'un veut la lumière, qu'il regarde la loi et le témoignage pour s'assurer qu'il ne parle pas contre ce sens. S'il ne le fait pas, il souffre de la faim, il n'a pas de justice, il est encore charnel, il est impatient, il n'a pas de fruits et il blasphème son roi et son Dieu, en donnant des conseils issus de leurs esprits charnels, mais en prétendant parler avec l'autorité de Dieu, leurs paroles portent atteinte à Dieu et au roi. Ceci a été tiré de la Bible à Gravesend. Note de l'éditeur du site. La note de bas de page du Cambridge Journal dit « Un expert des manuscrits bibliques ne trouve rien dans Isaïe pour étayer cela. Pourtant, c'est exactement là où Fox a dit que c'était, au chapitre 8 d'Isaïe, 3 versets de suite, 19-21. Certes, la manière dont Fox utilise les versets pour construire un avertissement à Cromwell reste affaire d'opinion. La mienne apparaît dans les crochets au sein de cette construction cryptique. Mais Cromwell était très versé dans la Bible. Je pense que c'est une lettre inspirée avertissant Cromwell de ce qui a précisément conduit à sa chute, ou à son éviction par le Seigneur, ce que le Seigneur menaça plus tard explicitement. Au lieu d'écouter cet avertissement de Fox, Cromwell écouta les flagorneurs religieux qui l'entouraient. Je fus alors emmené comme prisonnier par le capitaine Drury depuis l'SST, et lorsque nous arrivâmes à Harbour, il me demanda si je voulais rentrer chez moi et y rester 2 semaines. Il dit que je pourrais avoir ma liberté si je n'allais pas à des réunions et n'en tenais pas. Je lui dis que je ne pouvais promettre une telle chose. Plusieurs fois sur la route, il me le demanda et répéta la même offre, mais je lui fis toujours la même réponse. Alors il me conduisit à Londres et me logea à la Mermaid, en face des Mews à Charing Cross. En chemin, comme nous voyagions, lorsque j'arrivais dans des auberges ou d'autres lieux, j'étais poussé par le Seigneur à avertir les gens dans les auberges et les lieux du jour du Seigneur qui venait sur eux. Il me laissa aller visiter William Dewsbury et Marmaduke Store qui étaient en prison à Northampton. Note de Valiant for the Truth, le Londres où George Fox entra en 1654 serait à peine reconnaissable par un habitant de la ville actuelle. Il était entouré de murailles dont les fondations avaient été posées par les Romains et l'on ne pouvait y entrer que par des portes fortifiées. À l'intérieur de ces murs se trouvait un labyrinthe de ruelles étroites, dont Cheapside et Cornhill étaient les plus remarquables. Les étages supérieurs des maisons surplombaient les inférieurs, de sorte que des connaissances pouvaient se serrer la main depuis des fenêtres opposées, tandis que la rue en dessous ressemblait à un passage couvert. Il n'existait aucun dispositif d'éclairage des rues la nuit, et les différentes classes de la société maintenaient jalousement la distinction des rangs. Les courtisans avaient le droit exclusif aux lanternes, marchands et juristes étaient accompagnés de garçons portant des flambeaux, torches de poids pour s'éclairer, tandis que les mécaniciens et autres artisans devaient se contenter de torches. Le Strand, affairé et grouillant, était le lien entre Londres et Westminster, alors une ville distincte, et au lieu d'être bordé de magasins comme aujourd'hui, il était aligné des deux côtés, de Temple Bar à Charing Cross, par les maisons et jardins d'évêques et de nobles. Pendant le protectorat de Cromwell, la religion était le sujet majeur du jour. Des points épineux de doctrine étaient discutés avec autant d'ardeur que l'état des marchés l'est maintenant. La prédication en plein air était très courante, et les foules restaient patiemment debout 3 ou 4 heures d'affilée pour écouter des prédicateurs éminents. De l'un d'eux, nommé Howe, il est rapporté que, lors d'un jour de jeûne, il prêcha pendant 7 heures, avec une pause à midi pour se restaurer. Malgré la longueur des sermons, ces réunions n'étaient pas très utiles, et un vif désir existait chez beaucoup de voir certains de ces Quakers qui s'étaient levés dans le nord de l'Angleterre, et dont on parlait tant. Isabelle Butten vint à Londres au début de l'année 1654, et trouva 2 frères disposés à ouvrir leur maison à tous ceux qui souhaitaient se rassembler pour adorer selon cette nouvelle manière. Ce furent les premières réunions des amis tenues à Londres. Un soir de premier jour, Isabelle s'affairait dans le cimetière de l'église Saint-Paul, distribuant quelques papiers écrits par George Fox, lorsqu'elle fut arrêtée pour violation du sabbat et conduite devant le Lord Maire. Il la fit incarcérer, elle et ses compagnons, à Bridewell, parmi les dépravés et les coupables, montrant ainsi l'esprit fanatique de l'époque. Parmi les 60 ministres mentionnés dans un chapitre précédent comme étant partis du Nord au service de leur maître, il y en avait 2, très différents d'âge et de caractère, mais unis dans leur zèle pour la vérité. C'était Francis Haugill et Edward Burrough. Tous 2 venaient du Yorkshire, et leur apparence simple et leur dialecte provincial ne firent d'abord guère d'impression sur les londoniens subtils. Leur sagesse et leur zèle, toutefois, produisirent un grand effet, et soutenus par une force qui n'était pas la leur, les fruits de leur ministère augmentèrent à tel point qu'après 3 mois de service de nombreuses autres réunions furent établies, outre les 2 dans les maisons des frères Dring, et l'on trouvait à peine de la place pour le nombre de personnes qui s'assemblaient. Enfin, on obtint un grand lieu de réunion, connu sous le nom de Bullen Mouse, pouvant contenir 1000 personnes. Là, au milieu des querelles et des disputes, certains exaltant les Quakers et d'autres les accusant d'hérésie, Edward Burrough, le plus jeune des 2 évangélistes, prenait place debout sur un banc, Bible à la main, et s'adressait à l'assemblée tumultueuse devant lui avec une telle puissance que tous devenaient calmes et attentifs. Francis Haugill et Edward Burrough donnèrent tous 2 leur vie pour leur religion, le premier à la prison d'Appleby, où il fut emprisonné à vie, Edward Burrough à Newgate. Après 10 ans de ministère fructueux, ce jeune Boanerges, comme on l'appelait, fut enfermé avec 100 d'autres dans des locaux si exigus que beaucoup moururent de la fièvre des prisons, et l'un d'eux fut cet évangéliste zélé, à l'âge de 28 ans. Après que le capitaine Drury m'eut logé à la Mermaid, il alla faire au protecteur un rapport à mon sujet. J'écrivis un papier et lui demandai de le porter à Olive. Le voici, à Olive Cromwell, par George Fox, vers 1654. Cher ami, sois tranquille, et tiens-toi dans le conseil de Dieu, et cela te donnera la sagesse afin que tu puisses déjouer les fins des hommes des desseins égoïstes, apaiser les esprits des hommes, réduire les hommes gouvernés avec une autorité qui amène les hommes à céder, et élevé et monté dans la puissance du Seigneur Dieu et l'autorité de l'agneau. Ne crains pas le visage d'un homme, mais crains et redoute le Seigneur Dieu. Alors tu auras sa présence, sa sagesse et son conseil pour abattre les décombres, la confusion, et mater tous les mauvais esprits sous ta domination. Crains ceux qui t'entourent, méfie-toi des courtisans flagorneurs. Vis dans la puissance et la vie du Seigneur, et il te donnera alors la sagesse. Tu viendras à sentir le pur par lequel l'âme est rafraîchie. Il te sera délice de faire la volonté de Dieu, et ce sera ta nourriture et ta boisson, nourriture et boisson spirituelle qui rassasie, tandis que tu demeureras dans la pure puissance éternelle, le conseil, la volonté et la sagesse de Dieu. Toutes choses te seront rendues claires pour toi et pour toi de la part du Seigneur Dieu. Dans ce que tu fais pour le Seigneur Dieu, tu auras la paix et la bénédiction, et ce faisant, tous les gens sobres et au cœur vrai seront un avec toi dans toutes tes peines, tes chagrins et tes douleurs dans le sentiment. En cela, une bénédiction du Seigneur viendra sur toi en grande mesure et te protégera, tandis que tu vis et es gardé par la puissance et la crainte du Seigneur Dieu du ciel et de la terre. Ici la sagesse ne manque pas et la paix ne fait pas défaut, mais la paix est goûtée, et le conseil et l'instruction du Seigneur sont donnés. Tu sentiras le bras et la main secourable qui s'étendent sur toutes les nations du monde. Avec cela, tu en viendras à briser toutes les fins des hommes des desseins égoïstes qu'ils ont pour eux-mêmes, et à abattre les cultes que les hommes inventent et les images qu'ils ont dressées. Car le bras du Seigneur aide les justes, par sa main il porte ses agneaux, ce bras se tourne contre les méchants et s'étend sur les agneaux. La main du Seigneur est contre ceux qui font le mal, dans cette main est l'âme, et cette main conduit l'âme à la paix. C'est pourquoi, vis dans la puissance du Seigneur Dieu, et sens sa main étendue sur les nations, car le Seigneur a une œuvre puissante à accomplir dans d'autres nations. Leurs frissons et leurs tremblements ne font que commencer. Ainsi ceci est la parole du Seigneur pour toi, et une charge pour toi de la part du Seigneur Dieu, en la présence du Seigneur Dieu, vis dans la présence du Seigneur Dieu du ciel et de la terre. Cela fera que toutes les nations trembleront et frissonneront, car ceux-là sont les ennemis de Dieu qui sont hors de sa puissance et de son conseil. Et sois fidèle à Dieu d'un cœur simple, sans avoir égard à la personne d'aucun homme, mais respecte le Seigneur et son œuvre, et sois obéissant à sa volonté d'un cœur simple, sans poursuivre tes propres désirs. En vivant dans la pure sagesse, le conseil et l'instruction venant de Dieu, tu verras les ennemis de Dieu, qui aiment être hors de sa sagesse, de sa puissance et de son conseil. Ceux-là tombent dans leur fosse, se prennent à leur propre piège et ont peur là où il n'y a pas de peur, se tuant eux-mêmes par leur envie. La puissance du Seigneur tiendra tous les méchants loin de toi, tandis que tu vis dans la puissance et que tu y es gardé. Ceci est la parole du Seigneur Dieu pour toi. Vis dans la sagesse et la vie de Dieu, afin qu'avec elle tu sois ordonné à sa gloire. Sois tranquille et silencieux quant à ta propre sagesse, ton esprit, ton artifice, ta subtilité ou tes politiques qui pourraient s'élever en toi, mais tiens-toi simplement au Seigneur, sans aucune fin pour toi-même. Alors Dieu te bénira et te fera prospérer dans ses voies. Tu sentiras sa bénédiction dans ta génération. L'esprit appuyé sur le Seigneur, tu seras gardé dans une paix parfaite, sans aucune intention pour toi-même, à la gloire de Dieu. Là tu ne sentiras aucun manque, ni jamais aucune défaillance, ni abandon, seulement la présence du Seigneur Dieu de vie avec toi. Car dans l'état de ce temps présent, le Seigneur amène maintenant son peuple dans la vie d'où les Écritures ont été données, dans laquelle vie les gens viendront à avoir unité avec Dieu, avec les Écritures et les uns avec les autres, pour établir la justice, la vérité et la paix, dans quoi est le royaume de Dieu. D'un ami de ton âme et de ton bien éternel, George Fox, quand il revint vers moi, il me dit que le protecteur exigeait que je promette de ne pas prendre une épée ou une arme charnelle contre lui ou contre le gouvernement présent, et que j'écrive cette promesse dans la langue que je jugerais bonne. Je dis peu en réponse au capitaine Drury. Mais le lendemain matin, je fus poussé par le Seigneur à écrire un papier au protecteur, Oliver Cromwell, où je déclarais, en la présence du Seigneur Dieu, que je reniais le port ou le dégainement d'une épée charnelle, ou de toute autre arme extérieure, contre lui ou contre quelque homme que ce soit. Et que j'étais envoyé par Dieu pour me tenir comme témoin contre toute violence et contre les œuvres des ténèbres, pour tourner le peuple des ténèbres vers la lumière, pour les amener de l'occasion de guerre et de combat à l'évangile de paix, et pour cesser d'être des malfaiteurs, contre lesquels l'épée des magistrats doit être une terreur. Quand j'eus écrit ce que le Seigneur m'avait donné d'écrire, j'y apposai mon nom et le donnai au capitaine Drury pour le remettre à Oliver Cromwell, ce qu'il fit. Le cinquième jour du premier mois, George Fox fut poussé par le Seigneur à donner les paroles suivantes, qui furent remises à Oliver Cromwell, et George Fox fut alors aussitôt conduit devant lui par le capitaine Drury. George Fox à Oliver Cromwell, 1654 mois, que le monde appelle George Fox. Je renie le fait de porter ou de tirer une épée charnelle contre qui que ce soit, ou contre vous, Oliver Cromwell, ou contre quelque homme que ce soit, je le déclare en la présence du Seigneur Dieu. Dieu m'en est témoin par lequel je suis poussé à publier ceci pour l'amour de la vérité, de la part de celui que le monde appelle George Fox, qui est fils de Dieu, lui qui est envoyé dans le monde pour se tenir témoin contre toute violence. Les soldats qui servent comme magistrats ne doivent pas être de faux accusateurs, ne commettre aucune violence, mais être contents de leur solde. Et ce magistrat ne porte pas l'épée en vain. Je cherche à retirer mon peuple de l'occasion de cette épée. Mes armes ne sont pas charnelles, mais spirituelles. Et mon royaume n'est pas de ce monde, le royaume de Christ, dans lequel Fox était, n'est pas dans ce monde. C'est pourquoi je ne combats pas avec l'arme charnelle, mais je suis mort à de telles choses par celui qui n'est pas du monde Christ, appelé par le monde du nom de George Fox dans le royaume, chacun a un nom nouveau, donné par Christ. Je suis prêt à sceller ceci de mon sang, et je suis poussé à le publier pour l'amour de la vérité. Moi, qui suis témoin, je me tiens contre toute injustice et toute impiété, moi, qui souffre pour l'amour de la semence juste, attendant la rédemption de la semence. Moi, qui ne cherche pas une couronne mortelle et passagère, mais qui demeure dans la lumière, laquelle comprend cette couronne mortelle, passagère, laquelle lumière est la condamnation de toutes ces choses couronnes. Dans laquelle lumière je rends témoignage à la couronne immortelle, qui ne se flétrit pas, et qui est la lumière de celui qui est ami de toutes vos âmes, et la lumière est pour établir la justice et purifier le pays des malfaiteurs. Et la lumière est un témoignage contre toutes les inventions méchantes plans inventés des hommes et les complots meurtriers. La lumière, dans toutes vos consciences, répond, vous dit la vérité de ces paroles écrites. Cette lumière ne fait aucun pacte avec la mort. À la lumière en vous tous, je parle et je suis dégagé. George Fox, que le monde appelle George Fox, qui a un nom nouveau que le monde ne connaît pas. Nous sommes témoins de ce témoignage, dont les noms selon la chair astérisque sont appelés. Thomas Aldam, Robert Craven astérisque, ils étaient aussi dans le royaume avec des noms nouveaux, non selon la chair, qui leur avait été donnée. Commentaire de l'éditeur du site, le fait que Fox se désigne lui-même comme « le Fils de Dieu » est l'objet d'une controverse ultérieure, mais c'est simplement la manière dont la Bible s'exprime également. Rome 8, 14, 1 Jean 3, 2 et Phil 2, 15. Si je suis l'un des cinq fils de John Smith, et si je me décris comme « le fils de John Smith », ma description ne dit pas que je suis l'unique fils de John Smith, une logique fautive de ce type étant utilisée par les critiques de George Fox. Cromwell était un grand étudiant de la Bible. S'il avait trouvé quelque chose de répréhensible dans la déclaration de Fox ci-dessus, il aurait été très critique. Au contraire, Cromwell s'extasie en louange pour la lettre de Fox ci-dessous. Après quelque temps, le capitaine Drury me conduisit devant le protecteur lui-même à Whitehall. C'était le matin, avant qu'il ne soit habillé, et un homme nommé Harvey, qui avait passé quelque temps parmi les amis, mais était désobéissant, se tenait maintenant à son service. Quand j'entrai, je fus poussé à dire « La paix soit dans cette maison », et je l'exhortai à demeurer dans la crainte de Dieu, afin qu'il reçoive de lui la sagesse pour qu'ainsi il soit ordonné, et qu'avec elle il ordonne toutes choses sous sa main à la gloire de Dieu. J'eus beaucoup à lui dire au sujet de la vérité, et nous eûmes une longue discussion sur la religion. Tout le temps, il se comporta très modérément. Mais il dit que nous nous crêlions avec les prêtres qu'il appelait ministres. Je lui dis, « Je ne me crêle pas avec eux, ce sont eux qui se crêlent avec moi et mes amis. » Mais dis-je, « Si nous reconnaissons les prophètes, Christ et les apôtres, nous ne pouvons soutenir de tels enseignants, prophètes et pasteurs que les prophètes, Christ et les apôtres ont dénoncés, mais nous devons les dénoncer par la même puissance et le même esprit. » Puis je lui montrai que les prophètes, Christ et les apôtres proclamaient librement et dénonçaient ceux qui ne proclamaient pas librement, tels que ceux qui prêchaient pour un gain honteux, devinaient pour de l'argent, prêchaient à prix d'argent, étaient cupides et avides, comme des chiens muets qui n'en ont jamais assez, et que ceux qui ont le même esprit que Christ, les prophètes et les apôtres ne peuvent faire autrement que de dénoncer tout cela maintenant, comme ils le firent alors. Pendant que je parlais, Cromwell dit plusieurs fois que c'était très bien et que c'était la vérité. Je lui dis que toute la chrétienté, ainsi appelée, avait les Écritures, mais n'avait pas la puissance et l'esprit de ceux qui avaient donné les Écritures, et que c'était la raison pour laquelle ils n'étaient pas en communion avec le Fils, ni avec le Père, ni avec les Écritures, ni unis les uns aux autres. J'eus encore bien d'autres paroles avec lui, mais d'autres personnes entrèrent, et je me retirai un peu en arrière. Comme je me retournais, il me prit par la main et, les larmes aux yeux, dit « Reviens encore dans ma maison ». Car si toi et moi nous pouvions passer ensemble une heure par jour, nous serions plus proches l'un de l'autre, ajoutant qu'il ne me souhaitait pas plus de mal qu'à sa propre âme. Je lui dis, s'il en est ainsi, il fait du tort à sa propre âme, et je l'avertis d'écouter la voix de Dieu, afin qu'il se tienne dans son conseil et lui obéisse, et s'il le faisait, cela le garderait de l'endurcissement du cœur, mais s'il n'entendait pas la voix de Dieu, son cœur s'endurcirait. Il dit que c'était vrai, puis je sortis, et quand le capitaine Drury sortit après moi, il me dit que Son Altesse le Lord Protecteur avait dit que j'étais libre et que je pouvais aller où je voulais, et mon Lord Cromwell dit-il, « Tu n'es pas un sot », et il a dit qu'il n'avait jamais vu de sa vie un tel écrit que celui que je lui avais envoyé auparavant par toi. Et puis, on me conduisit dans une grande salle où les gentilshommes du Protecteur devaient dîner. Je leur demandai pourquoi ils m'y amenaient. Ils dirent que, sur ordre du Protecteur, je devais dîner avec eux. Je leur dis de faire savoir au Protecteur que je ne mangerais pas une miette de son pain, ni ne boirais une coupe de sa boisson. Quand Cromwell entendit cela, il dit « Maintenant je vois qu'il s'est levé un peuple que je ne puis gagner ni par des dons, ni par des honneurs, ni par des charges, ni par des places, mais je peux gagner tous les autres sectes et peuples. » On lui dit encore que nous avions abandonné les nôtres et qu'il était peu probable que nous cherchions de telles choses de sa part. Et l'un, deux, trois, quatre retours suivants.